Chères auditrices, chers auditeurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelques minutes avant le commencement de cette émission, nous étions à notre poste, Georges à la technique et votre serviteur au micro, et Georges d'annoncer « dans une minute ». Et le regard fixé sur l'horloge, il a regardé les secondes s'égrener. Et nous voilà en cours d'émission. Ce jour, nous parlerons de plusieurs comptes à rebours. Les sportifs sont attentifs, avant le départ de la course, au décompte vocal effectué par le starter. 4, 3, 2, 1, partez ! Car celui qui se laisserait distraire perdrait de précieuses secondes. Et il y a aussi les comptes à rebours que nous visualisons sur toutes sortes d'écrans, soit pour précéder un départ, ou au contraire, lors d'un match, pour décompter le temps restant avant le coup de sifflet final. La parole de Dieu nous relate quelques événements révolus qui, en leur temps, ont eu leur compte à rebours. Ces événements, annoncés prophétiquement, ont eu leur accomplissement au temps fixé par Dieu. Dans la période qui a précédé le déluge, l'Écriture nous fait connaître un constat divin concernant les pensées des hommes. Je lis Genèse chapitre 6, et verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais au milieu de cette génération pourrie se trouve un homme droit qui conduisait sa vie sous le regard de Dieu et, alors que la décision du jugement divin est prise, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. La lettre aux Hébreux nous rapporte ceci. Je lis chapitre 11, verset 7, version Bible du Semeur. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Nous comprenons aisément que la construction de l'arche, un bateau de 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur avec 3 étages, a pris du temps. Bien que le terrible décret du jugement ait été arrêté par Dieu, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous précise que Dieu a fait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, c'est-à-dire qu'il a attendu avant d'exécuter la sentence. Et dans la deuxième lettre, l'apôtre Pierre dit au sujet de Noé qu'il a été un prédicateur de la justice, c'est-à-dire qu'il appelait ses contemporains à mener une vie juste. Mais Noé n'a pas été entendu. Incrédulité et moquerie ont été les seules réponses à ses avertissements, jusqu'au jour où Jésus a fait référence à l'époque de Noé, non comme à une légende, mais bien comme à des faits avérés. Il s'en est servi pour annoncer son retour, événement dont nous parlerons plus avant dans le cours de notre émission. Voici ce que Jésus a dit. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 26. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Le compte à rebours, qui a duré des mois, voire des années, a eu son terme le jour où Noé est entré dans l'arche. Et l'Écriture précise, puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Cela nous apprend que la patience de Dieu, même si elle se prolonge des années durant, la patience de Dieu a ses limites. Autre compte à rebours révolu, la naissance de Jésus. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, précise ceci. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Cet événement avait été annoncé par le prophète Ésaïe. L'évangéliste Matthieu nous relate les faits en ces termes. Je lis chapitre 1er, versets 18 à 23, Bible du Semeur. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Je lis au verset 22. « Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Ce compte à rebours a commencé plusieurs siècles auparavant. Le prophète Michée, quant à lui, a désigné le lieu où se produirait cette naissance, Bethléem. Or, Marie et Joseph résidaient à Nazareth, en Galilée. Et le Seigneur, qui veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse, va mettre dans le cœur de l'empereur Auguste d'ordonner le recensement de tous les habitants de l'Empire. C'est ainsi que Joseph et Marie ont quitté la Galilée pour se rendre en Judée, à Bethléem, précisément, car ils étaient tous deux de la famille de David. Pendant qu'ils étaient sur place, Marie a donné naissance à son fils premier-né. Fin du conte à rebours. Et annonce par un ange du Seigneur de la bonne nouvelle à des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs, en ces termes, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Nous ne pouvons pas, dans le cadre de notre courte émission, évoquer tous les contes à rebours mentionnés dans les Écritures. Les exemples que nous citons, ceux qui sont révolus, ont un but tout simple, celui de souligner que ce que Dieu annonce d'avance a toujours son accomplissement. Et cela pour nous inciter à croire, et si j'ose dire, à prendre Dieu au sérieux. La première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le prophète Jérémie a annoncé au peuple un décret divin. Ce décret intervient après de longues années de patience et de rappel à revenir à lui. Je lis chapitre 25, verset 11. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Au chapitre 52 et au verset 28, il est écrit « Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays. La septième année, Nebuchadnezzar amena en captivité 3023 juifs, dont le jeune Daniel et ses trois compagnons. » Et, 70 ans plus tard, nous lisons ceci dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2. La première année du règne de Darius, de la dynastie des Mèdes, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Cela a fortifié Daniel, qui s'est engagé dans une prière fervente d'une très grande intensité. Bien-aimés, je vous en recommande la lecture au chapitre 9 du livre du prophète Daniel. Et si l'on peut dire, la fin du conte à rebours est décrite dans le livre d'Esdras au chapitre 1er. Et pour nous, il est temps maintenant de faire une pause musicale.
Celui qu'on a vu monter au ciel reviendra de la même manière. Il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps arrosant la terre. On l'appelle le prince de la paix. Il est admirable, Père éternel. Et quel bonheur quand on le connaît. C'est la vie éternelle.
Le plus grand rendez-vous de l'histoire, c'est quand chacun de nous à la croix reçoit de lui l'offre de la gloire. Quand on ne répond pas, on a fait son choix. On l'appelle le prince de la paix. Il est admirable, Père éternel. Quel bonheur quand on le connaît. C'est la vie éternelle. Vous qui savez lire dans le ciel le temps qu'il fera pour nous demain, connaissez-vous la grande nouvelle? Sa promesse est certaine, Jésus revient. On l'appelle le prince de la paix. Il est admirable, Père éternel. Quel bonheur quand on le connaît. C'est la vie éternelle.
Nous allons porter maintenant notre regard vers l'avenir, vers l'événement attendu par tous les chrétiens. Voici ce qui est écrit en relation avec le jour de l'Ascension. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10. Les apôtres avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'est levé, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Comme il est monté, il descendra. » Parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. « Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Et voici ce qui est écrit dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. « En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Fils, au Christ, ressusciteront les premiers. » Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, quelle espérance extraordinaire! Oui, elle est source de consolation lors de la perte d'un être cher. Le retour de Jésus et la résurrection de ceux qui sont morts dans la foi au Fils de Dieu qui y est associé, nous assure que les retrouvailles seront douces. Cette espérance est aussi une grande force face aux persécutions auxquelles sont exposés fréquemment les chrétiens, et pas uniquement dans des pays très divers quant au régime politique ou religieux qui les dirige, car elles peuvent aussi se perpétrer au sein des familles toutes proches. Mais, au lieu d'anéantir la foi chrétienne, comme c'est le but poursuivi à travers ces actes de violence, ils l'affermissent. Bien-aimés, les textes qui annoncent le retour de Jésus sont au double de ceux qui ont annoncé sa naissance, c'est-à-dire sa première venue. À Bethléem, c'est le Sauveur qui est venu, l'homme de douleur mentionné par le prophète Ésaïe. Dans les airs, c'est en Seigneur que Jésus revient. En fait, il vient accueillir l'ensemble des croyants de tous les siècles, c'est-à-dire l'Église, son épouse, et il nous introduira dans ses appartements, comme cela est évoqué dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Quel ravissement! Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur est proche. Es-tu prêt pour cet avènement? Après avoir évoqué son retour, Jésus a laissé aux siens plus qu'un conseil, une recommandation, un impératif. C'est ceci, Matthieu chapitre 24, versets 42-44. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Rahab, la prostituée qui habitait Jéricho au temps de Josué, nous montre l'exemple quant à la manière de se tenir prêt. Les espions de Josué qu'elle a couverts ont passé un accord avec elle. Et comme signe d'alliance, elle devait placer un cordon rouge à sa fenêtre. Dès leur départ, elle a placé le cordon à sa fenêtre. Elle était prête, peu importe le temps à courir avant l'arrivée des armées de Josué. De même, si nous sommes au bénéfice du sang de Jésus, nous sommes prêts. Régulièrement, depuis quelques décennies, certains succombent à la tentation de fixer une date au retour de Jésus. Or, l'Écriture est formelle. Jésus a déclaré « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Malgré toutes ces supputations et allégations humaines, dont les seuls effets sont dans un premier temps d'inspirer la peur à certains et ensuite la moquerie à d'autres, le compte à rebours court dans le ciel. Alors la question vitale pour toi, bien-aimé, est celle-ci, es-tu prêt? Il est un compte à rebours personnel à chaque individu, celui de nos jours. Personne n'émet de son souffle. La faucheuse n'envoie pas de préavis. Ceux qui sont prêts pour le retour du Seigneur sont, a fortiori, prêts pour la mort. Car, l'Écriture dit, « Ayant été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si le choix nous était donné, comme le souligne l'apôtre Paul, nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Dans cette attente, celle de nous retrouver dans la présence du Seigneur, est-elle la fiancée qui aspire à la rencontre du futur époux et aux noces, nous disons avec l'Esprit de Dieu, « Viens, Seigneur Jésus !» Bien-aimé, si ce n'est déjà fait, il est urgent pour toi de te préparer à la rencontre de ton Dieu, de te réconcilier avec lui, car tu ne sais pas à quel moment ton âme te sera redemandée. Crois simplement et nourris ton âme avec la parole de Dieu. Amen.